Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous, les grandes gueules du sport, c'est votre émission en direct le samedi, le dimanche de 9h à midi. On est très heureux de vous retrouver ce matin. Prenez un bon petit déjeuner si vous êtes sur la route des vacances, de retour. Peut-être, évidemment, faites très attention à vous. On va passer 3 heures ensemble et on est très heureux. On va vous accompagner. Émission exceptionnelle ce matin autour du dopage à partir de 10h. L'Agence mondiale antidopage, dite l'AMA, prend la parole dans les grandes gueules du sport. Au sommaire aujourd'hui, l'OM vise la fumée blanche après sa semaine à Rome et peut frapper un grand coup ce soir face à Brest dans la course à la Ligue des Champions. Cette mise au vert rajoute-t-elle de la pression? Les GG ne sont pas d'accord. On se posera la question. 9h40, on bouleverse évidemment un petit peu notre conducteur. La punchline des GG, Novak Djokovic, n'est plus que l'ombre de lui-même, éliminé une nouvelle fois dès son entrée en lice à Madrid, le Serbe. Et vous l'écouterez, cet édifiant. A-t-il lâché? Et puis je le disais, à partir de 10h, notre dossier spécial dopage avec l'AMA, représenté par son directeur de la médecine, Olivier Rabin, et Jean-Claude Alvarez sera également avec nous, le professeur qui tente d'innocenter les sportifs. C'était notamment le cas d'Iga Świątek. Ils seront face au GG. Les grandes gueules du sport, je vous les présente ce matin. Bon, la présentation était toute trouvée, évidemment. Une grande gueule qui, comme le dopage, il est toujours là. Après des années, on n'arrive pas à s'en débarrasser. Christophe Cessieux, salut Christophe.
Bah oui, c'est difficile, hein. C'est un problème difficile. Éliminer comme ça les parasites dans la société, pas facile.
Pas,
oui,
facile. Pas facile.
Mais peut-être parce qu'il a jamais été pris positif.
C'est parce que il n'y a pas eu beaucoup de...
Ça dépend, ça dépend à quel contrôle. Hein. Ça dépend à quel contrôle.
Celui post 60 ans, il n'a pas été fait encore.
J'ai toujours eu des bons indicateurs qui m'ont dit que les préleveurs allaient venir et j'ai paf, toujours passé entre les gouttes.
Bon, en tout cas, on a prévu une tablée sur mesure, hein, pour parler de dopage. Dans quelques instants, ce sera à partir de 10h.
Non, mais oui, parce qu'il y a. Oui, Beneteau, Pitkovski, dans le tennis, le sport où on se dope le plus, c'est ça?
Non, c'est pas ça que je veux dire, évidemment, mais.
C'est vrai, c'est tellement vrai.
Où c'est très, ne commencez pas, s'il vous plaît, où c'est très intéressant, pas de diffamation.
28, 29 Tours de France, c'est ce qu'il a fait, Christophe.
Où c'est très intéressant d'avoir
leur avis. C'est à lui qu'il faudrait faire des contrôles.
Je vais vous présenter tranquillement, les copains, commencez pas la bataille. Une grande gueule qui, comme le dopage, bah, il adore le vélo, hein. Jérôme Pinault, salut Jérôme.
Oh là là.
Ah là là, mais c'est tellement facile. Mais en même temps, j'y ai droit à toutes les semaines, donc pourquoi pas sur une émission spéciale dopage.
Bah oui.
Pendant laquelle on va beaucoup, beaucoup parler de tennis, je le confirme.
Oui, et de vélo aussi.
Un petit peu, Jérôme, mais c'est pas le vélo.
On va surtout faire dégonfler le tennis au profit du vélo.
Il n'y a pas de dopage dans le vélo.
Ok, bon, arrêtez, ça suffit. Hein.
C'est quoi cette idée?
Une grande gueule qui, comme le dopage, elle ne fait pas de bruit, mais elle a toujours un train d'avancer. Sarah Pitkovski, salut
vrai,
Sarah.
Salut à tous.
Ça va, non, Sarah?
Oui, très bien, très bien, très bien.
T'as envie d'en découdre ce matin?
Écoute, ouais, les sujets sont pas mal du tout.
Exactement, c'est à partir de 10h la main. Hein, je le rappelle pour une fois.
Mais ils ont été décidés après une journée de golf.
Ah ouais,
le cerveau a été oxygéné.
Il s'est aéré la tête.
Ok, alors lui, il va prendre une balle perdue maintenant. Une grande gueule qui, comme le dopage, il n'a jamais gagné Roland-Garros, quoique pour le dopage. Julien Beneteau, salut Julien.
Bonjour tout le monde.
Ça va, mon Julien? Oui, t'es en forme?
Ouais.
Bon, ravi de te retrouver comme hier.
Avec Sarah.
C'est quasiment la même bande. Hein.
Ouais, la même équipe.
Franchement, Sarah, Julien, Christophe, on a rajouté Jérôme, évidemment, pour une émission spéciale. Aujourd'hui, que nous allons débuter tout de suite avec ce proverbe québécois.
Je sais pas comment je dois le prendre, le coup, là.
Bah, non, mais parler de dopage sans un ex-coureur, enfin, je veux dire, c'est comme. Je vais le trouver.
C'est comme un jambon beurre sans jambon?
Exactement.
Voilà. On pourra en trouver d'autres, évidemment. On va réfléchir dans quelques instants. Allez, un proverbe québécois pour débuter. Avec une langue, on peut aller à Rome.
RMC, la une des grandes gueules du sport.
Ça va être terminé, défaite de l'Olympique de Marseille. Ici, au Vélodrome, les sifflets et la frustration des tribunes à Marseille.
Quelle corruption, c'est la corruption totale. Quel championnat de merde.
C'est inadmissible. Je viens souvent au Vélodrome et c'est tout le temps les mêmes prestations.
Ça devient presque habituel après le 3-0 et la claque subie contre le Paris Saint-Germain.
Prenez pas les gens pour des coureurs.
Je suis dégoûté. Rien en attaque, rien en défense. Franchement, dépité. Je sais même plus quoi dire.
C'est terminé. Le Stade de Reims, qui n'avait plus gagné depuis 15 matchs, qui n'avait plus marqué depuis quasiment 700 minutes, a humilié l'Olympique de Marseille.
On n'a pas trop proposé de jouer, même pas du tout. On n'a rien montré sur le terrain.
Si au cours de ce parcours, je perds quelqu'un parce que cette personne n'est pas d'accord avec moi, je n'ai pas peur d'avoir des désaccords, mais être perçu comme un criminel, comme un délinquant, non, je ne suis pas un criminel.
L'OM s'écroule encore dans ce sprint final. Quatrième défaite en 5 matchs.
Ils gagnent jamais des matchs importants comme ça.
On a du mal à savoir s'il faut féliciter Monaco ou blâmer l'OM.
Corruption.
Un mois de la fin de la saison, l'OM a donc décidé de bouleverser ses habitudes. Une information largement commentée cette semaine dans la presse, la mise au vert en Italie, renouvelable chaque semaine, loin de tout, loin du bruit, loin du tumulte, loin de la pression, loin des Marseillais aussi, pour se concentrer sur un seul et unique objectif, la qualification pour la Ligue des Champions. Cette semaine à Rome a-t-elle porté ses fruits? Début de réponse ce soir au Vélodrome avec la réception de Brest. La musique qui fout les jetons et cette question. Cette mise au vert, est-ce que ça rajoute de la pression à l'OM? Oui ou non? Christophe Cessieux.
Non.
Julien Beneteau.
Moi j'ai dit oui, je vais rester sur oui, mais en fait ils l'ont déjà la pression.
Ok, mais tu es sur le oui. Jérôme Pinault.
Eh ben non, comme Julien Beneteau, mais moi je dis non parce qu'ils l'ont déjà la pression.
Sarah Pitkowski.
Tout pareil que Jérôme.
Ok, avant de débattre, on retrouve notre correspondant à Marseille, Florent Germain. Salut Florent.
Salut JC, salut les GG, salut à tous. Salut.
Alors comment les Marseillais ont vécu cette escapade qui a-t-on fait parler?
Oui, paraît-il que l'environnement de la commanderie à Marseille est trop bruyant. Ce sont un peu les termes de Pablo Longoria. Et c'est vrai que l'OM a préféré s'en éloigner. Marseille a passé 4 jours et 3 nuits à Rome, au nord de la capitale, dans un bel hôtel où pas mal d'équipes italiennes ont leurs habitudes. Des entraînements studieux pour l'OM, forcément, mais de la convivialité aussi avec quelques parties de ping-pong, un peu de piscine, un barbecue avec le staff. Et jeudi soir, un resto uniquement entre joueurs. Le défenseur Ulysse Garcia, écoutez, valide cette initiative.
On est tout le temps ensemble, on crée une cohésion de groupe, on dort aussi des terrains. Si ça passe par une semaine à Rome ou 2 semaines, je ne sais pas, on veut vraiment faire le maximum pour atteindre les objectifs.
Le discours en interne, c'est de dire que tout est mis en œuvre pour que l'OM soit uni, déterminé à aller chercher cette Ligue des Champions. L'entraîneur Roberto De Zerbi voulait aussi resserrer les liens à l'intérieur du groupe dans un vestiaire qui a parfois connu quelques frictions. Il y a aussi eu des crispations récemment entre le directeur du football Mehdi Benatia et l'entraîneur italien De Zerbi. Donc ces moments en vase clos peuvent ramener de la sérénité. Roberto De Zerbi n'y voit pas non plus une révolution.
Il n'y a rien à cacher ni de secret à garder. On est bien, aussi quand on est à Marseille, mais on a voulu sortir de la routine. Est-ce que ça nous réussira? Je ne sais pas, mais on a pris cette décision en pensant uniquement au bien de l'OM.
Voilà, du côté des supporters, en tout cas, on demande à voir. L'initiative a été, on va dire, moyennement comprise. Le Vélodrome attend en tout cas son équipe de pied ferme et ferait, il est vrai, beaucoup de bruit si l'OM, après cette escapade italienne, ne bat pas Brest ce soir.
Merci beaucoup Florent Germain pour toutes ces précisions. Le 32-16, le hashtag RMC Lab, l'application RMC Direct Studio, on vous attend évidemment, cher Marseillais. Cette mise au vert à Rome rajoute-t-elle de la pression? La fin évidemment de la démonstration de Florent Germain donne du crédit à Julien Beneteau, mais pourquoi non, Christophe Cession?
Moi je pense que c'est plutôt une initiative qui permet d'enlever un peu de pression, c'est-à-dire que tu t'éloignes de Marseille. On sait que c'est une ville qui vit que pour le foot et que dès qu'un joueur de l'Olympique de Marseille sort de chez lui, et ben tout le monde lui dit alors ce week-end il faut gagner, hein, faut gagner. Et là, ben, en prenant un peu de recul, en allant à Rome, en restant avec les copains, en étant dans un hôtel de luxe, la piscine, tu peux même aller boire des coups, paraît-il, le soir. Ben, je trouve ça génial. Ça leur met pas de pression, au contraire, ça leur en enlève.
Christophe, il a envie de partir en Italie avec moi.
Surtout pour aller boire des coups le soir.
J'en connais d'autres, qui s'enlèvent beaucoup de pression.
Attendez d'être à Lille le début juillet et vous ferez vos petits coups le soir.
Bah oui, mais t'inquiète pas.
Ça n'a rien à voir avec la choucroute, les copains. On continue.
Donc, c'est vrai que c'est pas une mise au vert traditionnelle. La mise au vert traditionnelle, Armel, t'es là, t'es dans ta chambre, t'attends que l'heure de match arrive, tu fais la sieste, et t'as le temps de gamberger là. Je suis pas sûr qu'ils aient vraiment le temps de gamberger. En revanche, la pression, comme vous le dites et comme vous allez le dire dans quelques instants, ils l'ont déjà et ils l'auront d'autant que le Big Boss sera au Vélodrome ce soir. McCourt ne vient pas très souvent et il a fait comprendre à tout le monde, surtout au staff et à ses dirigeants, que s'il n'y a pas de qualif pour la Ligue des Champions, les choses allaient changer la saison prochaine avec un projet qui sera sans doute revu à la baisse. Et ça, je pense que c'est surtout les dirigeants qui ont la pression parce qu'ils savent que s'il n'y a pas la Ligue des Champions, il n'y aura pas de sous parce que les droits du championnat domestique ne sont plus du tout les mêmes. Donc il faut à tout prix, s'ils veulent continuer à avoir ce projet ambitieux, il faut se qualifier pour la Ligue des Champions. Autrement, l'OM, je pense, l'année prochaine redeviendra un club lambda.
Julien Benneteau, pourquoi oui ? Pourquoi ça rajoute de la pression ?
Flo Germain, dans sa dernière phrase, il a tout dit. C'est-à-dire que si ça ne gagne pas ce soir au Vélodrome contre Brest, après avoir fait ça, on a l'impression qu'il tente tout. Parce que justement, la Ligue des Champions devient vitale et indispensable.
Mais c'est pas cette mise au vert qui met de la pression.
Tu te dis, mais alors, qu'est-ce qu'ils vont chercher pour essayer de...
Est-ce la dernière solution pour concerner tout le monde, quoi?
J'ai l'impression que De Zerbi voulait vraiment concerner tout son groupe, prend cette initiative qui est plutôt pas mal vu l'organisation qu'ils en font. Mais effectivement, je pense qu'il y a un environnement autour du club qui met la pression. C'est pour ça que je dis qu'ils ont déjà la pression. Et le fait de vouloir fuir cette pression, si ça gagne pas, en fait, ils vont le reprendre en pleine tête.
Dès qu'ils vont rentrer sur la pelouse du Vélodrome,
ils ont déjà la pression. Ils jouent en dernier aujourd'hui dans cette journée.
Tout le monde a gagné, sauf
Monaco. Nice, Lyon a gagné. Lille va certainement gagner contre Angers cet après-midi. Et surtout, s'ils gagnent pas ce soir, la semaine prochaine, ils vont à Lille. Et en fait, ce soir, c'est primordial. Et dans le contexte actuel, ce que vient de dire Christophe, c'est qu'on a vraiment l'impression que cette année, la Ligue des Champions, elle est indispensable, voire vitale pour la suite de l'OM à ce standing-là.
Je pense que c'est pour tous les clubs pareil. Aujourd'hui, elle est indispensable. Tu gagnes plus un rond
avec
la seule manière d'avoir des beaux budgets et donc pouvoir recruter, c'est de performer en Ligue des Champions. Se qualifier pour la Ligue des Champions et ensuite, comme Brest, comme
si tu te qualifies ou pas après pendant la Ligue des Champions, c'est le jackpot.
Mais on sent quand même que Marseille est l'une des équipes, si ce n'est l'équipe qui en a peut-être le plus besoin, en tout cas qui montre qu'il en a le plus besoin, avec notamment
la nervosité de la gouvernance depuis plusieurs mois montre qu'effectivement ils se sont tous mis la pression pour cette Ligue des Champions.
Et la présence de McCourt ce soir, Sarah, c'est, on rajoute un coup.
Exactement, mais il y a aussi on peut revenir aussi sur les propos d'Adrien Rabiot. Alors je ne sais plus après quel match qui disait, mais en fait j'ai l'impression que tous les mecs sur le terrain n'ont pas la même envie, et pourtant il y en a beaucoup d'entre eux qui ne l'ont jamais joué, cette Ligue des Champions. Et donc, ils ne comprenaient pas pourquoi il y avait un écart d'investissement chez certains par rapport à lui, je présume, mais par rapport à d'autres aussi. Donc, quand je dis non, ils n'ont pas la pression, c'est que j'espère que les joueurs eux-mêmes se sont mis la pression avec cet objectif, parce que c'est l'objectif qui a été donné au club. Mais j'espère que eux, individuellement, pour ceux qui n'ont jamais joué la Ligue des Champions, parce que peut-être que, effectivement, cette mise au vert qui ressemble plutôt à une colo qu'une mise au vert entre nous. Et puis, alors, la destination calme, c'est quand même raté d'aller à Rome à partir d'un dimanche.
Il y a un avantage, c'est que vu les performances européennes de Marseille ces dernières années, il n'y a personne qui les reconnaît à Rome, ils sont tranquilles.
Mais il y avait une autre attraction, tu me diras. Depuis que cette mise au vert a été annoncée, on a entendu dans les émissions foot sur RMC, ça crie au scandale. Non mais les mecs, ils sont déjà tous ensemble, qu'est-ce qu'on va aller les remettre ensemble? Ils n'ont pas besoin de s'éloigner de là où ils vivent, ils vivent déjà en vase clos.
Parce que pour les joueurs de foot, partir 3 jours de chez eux et pas être maman le soir, c'est compliqué. Non mais c'est vrai, c'est hallucinant ce que dit Sarah, mais j'étais... j'entends les mecs, à la fin de la saison, ils ne vont pas être là chez eux pendant 3-4 jours, c'est long, etc.
Mais c'est pas la même vision.
Après, Julien,
tu passais combien de temps de chez toi
6 semaines de suite parfois.
Jérôme veut vous interpeller.
Et dans le cyclisme aussi, non, mais il y a quelque chose qui est juste, par contre, et je ne sais pas ce que tu en penses, c'est ce qui, moi, m'a un peu étonné, c'est de créer un stage qu'on appellera colonie, donc
ouais, ou commando,
de cohésion,
ouais.
De cohésion,
à ce moment-là,
en fin de saison.
Alors ça c'est bizarre. Enfin,
mais
alors,
c'est pas maintenant qu'il faut le faire. Si tu veux faire un stage de cohésion, c'est en prépa ou à la trêve hivernale parce que ton groupe a pas pris. Mais si en fin de saison tes mecs ils s'insultent dans le vestiaire, c'est pas parce que tu les emmènes en colo à Rome à boire des canons, à aller voir des nanas et danser le soir que ça va changer l'histoire dans le vestiaire. C'est trop tard. Ce qu'il faut c'est un bon stage de foot, que les mecs fassent le métier. Et je crois que c'est la seule solution qu'a trouvé De Zerbi. Il commence à faire beau à Marseille. Il peut pas mettre un membre du staff devant la porte de chacun des joueurs pour pas qu'ils aillent faire les cons le soir. Donc ils vont en stage.
Donc,
voilà,
ils font les cons ensemble. Non. Oui, mais enfin il y a
mais on en revient à notre question. Est-ce que justement tout ça autour de ces un mois peut-être en Italie, parce que ça va être renouvelable, hein. Si ça marche bien, peut-être que ce soir ils repartiront avant le match face à Lille à Rome.
Oui, ils vont repartir.
Mais j'espère qu'ils vont repartir parce que tout ce contexte,
est-ce que ça c'est justement ça rajoute pas en disant si on n'a pas de résultat en fait on aura tout essayé.
Alors, si ça gagne pas contre Brest ce soir, c'est à Lourdes qu'il faudra aller faire un stage la semaine prochaine, hein. Ça c'est Mika qui me dit ça sur X.
Mais c'est surtout que dans le contexte actuel, ça rajoute pas de la pression parce que je pense qu'elle est à son paroxysme, la pression. Je pense que les joueurs savent très bien qu'en portant le maillot de l'Olympique de Marseille, avec les millions qu'ont injecté les investisseurs, avec la pression qu'on a eue toute l'année, et notamment le directeur sportif et Pablo Longoria qui a pété les plombs en pleine saison, ils savent, les joueurs, depuis très longtemps maintenant, et c'est pour ça qu'ils déjouent, selon moi, ces dernières semaines, qu'ils n'ont pas le droit de faire autre chose que la Ligue des Champions, et même que ne faire que deuxième derrière le Paris Saint-Germain. Donc la pression, elle est à son paroxysme en ce moment. Les joueurs, ils le savent. Et quelque part, ça ajoute pas. Ça peut peut-être leur soulager d'une partie. Moi, je dis non, parce que ce soir, tu montes dans le bus, tu es en France, tu reçois les textos, tu vas sur les réseaux, tu arrives au stade et tout te retombe sur les épaules parce que tu arrives au Vélodrome et tu sais que tu n'as pas le droit de te louper parce que les gaillards dans le stade, ils savent que tu es parti une semaine à Rome. Et eux, ils veulent voir des résultats sur le terrain. Ils n'en ont rien à faire que tu as été sympathisé avec finalement le mec que tu n'aimais pas trop depuis le début de saison. Eux, ils veulent gagner parce qu'ils veulent la Ligue des Champions. Et ça, les joueurs, je pense que quand on a été athlète, on comprend ça. C'est le jour du match que tout revient. Tu as beau avoir oublié 2-3 jours, décompressé un petit peu, le jour du match, le jour de l'enjeu, tu reprends tout pleine tronche, et c'est ce soir qu'on verra.
Et c'est extrêmement serré, hein, on l'a dit, en haut du classement, ça va être palpitant. Il reste 3 journées pour les autres équipes, 4 pour l'Olympique de Marseille, mais il y a 6 équipes en 2 points. 6 équipes en 2 points.
Et derrière, c'est pareil. À la fin du championnat, c'est pareil.
Exactement.
Même. Ouais, Marseille qui gagne ce soir, 58 points, avec un Monaco qui fait match nul hier, ils se font quand même une petite bouffée d'oxygène.
Et c'est pour ça aussi qu'on se pose la question ce matin. Il y a un grand coup à faire pour l'Olympique de Marseille. Supporters marseillais, on vous attend au 32-16. On poursuit la discussion dans quelques instants. Et puis dans une quinzaine de minutes, on parlera de Novak Djokovic avec une conférence de presse assez extraordinaire le concernant hier. Est-ce qu'il a lâché Novak Djokovic? Allez, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Jules, le Marseillais qui était hier à Paris, au Stade de France, pour son concert événement. On est de retour dans les grandes gueules du sport avec Christophe Cessieux, Sarah Pitkowski, Julien Beneteau et Jérôme Pinot. On va poursuivre la discussion sur l'Olympique de Marseille, cette mise au vert à Rome. Est-ce que ça rajoute de la pression avant le match ce soir face à Brest? Restez bien avec nous. À partir dans 10 minutes, on vous parlera de Novak Djokovic. Est-ce qu'il a lâché le champion serbe après une conférence de presse? Vous allez l'entendre dans quelques instants, assez édifiante, où il avoue que ça commence à devenir extrêmement compliqué. Et puis à partir de 10h, c'est l'événement évidemment ce matin sur RMC, le dossier spécial dopage avec l'AMA, l'Agence Mondiale Antidopage, qui viendra s'exprimer, et c'est extrêmement rare, donc on est très heureux évidemment de les recevoir. On poursuit donc la discussion sur l'Olympique de Marseille. Il y a Karim qui nous appelle au 32-16. Bonjour Karim.
Bonjour l'équipe.
Supporter, bonjour. J'imagine, de l'OM.
Évidemment.
Réponds à cette question, cher Karim. Est-ce que cette mise au vert, pour toi, ça rajoute de la pression ce soir pour les tiens?
Moi, je pense pas. Sincèrement, moi, je pense que c'est surtout j'ai envie de vous dire que c'est surtout un chafouin médiatique plutôt qu'autre chose. Parce que je pense que pour les joueurs, a priori, c'est surtout une petite mise au vert. Une retrouvaille entre staff et équipe. Moi, je pense pas que ça mette une pression supplémentaire. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je pense que le mieux placé pour nous dire les choses, je pense que c'est Flo Germain. Évidemment, gros respect à lui, évidemment. Nous, en tant que supporters de l'OM, quand on écoute RMC, on est toujours très attentif à ce qu'il dit. Et
justement, Karim, ce qu'il disait aussi, c'est de dire que voilà, si l'OM tente tout, et l'OM, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que l'OM a bien raison de tout tenter parce que cette qualification pour la Ligue des Champions est extrêmement importante. Sauf que là, on sent que c'est la dernière arme. Alors si elle fonctionne, c'est parfait, mais si elle fonctionne pas,
eh ben c'est la merde. C'est la merde parce que là, pour le coup, effectivement, moi, en tant que supporter de l'Olympique de Marseille, j'ai pris mes places pour aller au Havre et j'ai pris ma place évidemment pour aller au Vélodrome contre le dernier match.
Face à Rennes.
La problématique, c'est qu'effectivement, si ça ne fonctionne pas, on est dans la merde. Déjà ce soir, je vais pas vous mentir que ce soir, ça va être une grosse pression. Effectivement, ce soir, c'est la grosse pression. Et je voulais juste rectifier quelque chose. Nous ne serons pas à 4 points de Monaco, mais à 3 points. Parce que nous sommes égalité. Nous sommes.
Exactement. À 3 points de Monaco.
Ouais. Exactement.
Et 55-58. Vous allez avoir 58 points.
Honnêtement, je ne vais pas te mentir. Écoute, sincèrement, ce soir, j'espère qu'on va mettre une branlée à Brest. Mais à mon avis, ça ne va pas être le cas.
Ça va être le cas. Je pense que ce soir, si on arrive à gagner 1-0.
Si on arrive à gagner 1-0 ce soir, même Golavérage, ils sont à 22, on est à 20. C'est pas bon.
Mais Éric Roy connaît bien la maison marseillaise.
Denis Le Saint le président de Brest se ferait un malin plaisir de freiner un peu les ardeurs marseillaises aussi. Ça va être un grand match pour Brest, un des derniers de la saison. Et dans ce genre de rendez-vous, ils savent répondre présent. Ça va pas être si simple que cela.
Mais je pense que le moment le plus important pour la suite, ce sera la semaine prochine.
Mais
le
si match... tu gagnes ce soir,
mais seulement si tu gagnes ce soir,
pour les 3-4 derniers matchs. Mais là, c'est ce soir le important.
Mais alors on disait là, on avait un débat la semaine dernière ou il y a 15 jours sur est-ce que ce championnat a encore un intérêt. Mais j'ai l'impression que depuis que le PSG est champion, le championnat a repris de l'intérêt.
Parce
que
là,
la bagarre pour la deuxième, la troisième, la quatrième. Ouais. Regarde, entre Monaco et Lille, t'as 2 points, t'as 6 clubs qui sont là. C'est génial.
Enfin, toi, tu t'y intéresses parce que Nice a battu le PSG.
On est quand même les seuls à avoir battu le PSG. Bientôt Nice
en tant que Nantais, je dois te remercier, Christophe, d'avoir battu le Paris Saint-Germain.
Très bien. Les remerciements, ce sera pendant la pub. Je voudrais réécouter les tennisman sur la mise au vert et revenir à notre débat, parce que vous, ça vous paraît assez incroyable où vous partez 6-7 mois.
Nous, on tombe de notre chaise.
Voilà. Est-ce que ça a un côté bénéfique quand on n'a pas l'habitude de se retrouver comme ça en cohésion? Toi, tu es le capitaine de l'équipe de France féminine de tennis. Est-ce qu'il y a forcément que des bienfaits?
Que des bienfaits. Là, pour l'OM, je pense qu'il n'y a que des bienfaits. Enfin, ça dépend comment tu le prends, le truc. Mais quand j'entends Ulysse Garcia qui dit j'étais super content de ce séjour à Rome pour l'instant parce que j'ai découvert Jonathan Rowe, on est au mois d'avril. Soi-disant, ça fait 7 mois qu'ils sont ensemble, ils sont 24 heures sur 24 ensemble, ils n'en peuvent plus justement. Etc.
Ça t'inquiète plus qu'autre chose.
C'est pas que ça m'inquiète, c'est que je me dis, ils ont quand même un fonctionnement, les joueurs de foot, qui est particulier. C'est-à-dire que je pense que quand ils ont entraînement à 10h, ils arrivent à 9h50, ça se finit à midi, ils repartent à midi 10. Le fameux travail de l'ombre tout au long de la saison, quand ils sont fatigués parce qu'ils jouent une fois tous les 3-4 jours et qu'ils enchaînent les matchs. Je veux bien, mais c'est parce que sur les à côté, ils font pas les trucs comme Djokovic, comme Pogacar ou comme Rafael Nadal, ça c'est sûr.
Après, tu sais, Julien, je pense que dans un groupe comme celui-là, des garçons comme ceux-là, mais dans tous les groupes c'est pareil. Enfin, tu as des affinités ou t'en as pas, et ça ne s'arrêtera jamais. T'as pas envie de passer du temps.
Tu peux pas t'entendre.
Au-delà du temps imposé, si le mec, t'as pas trop envie d'être avec. Moi, ça m'est arrivé aussi dans certaines équipes après les courses. Bah, t'as pas envie de rester à table si le mec qui reste à table, c'est un mec.
Oui, mais toi,
a priori, t'as pas ton crochu,
si,
toi.
Même si vous êtes peut-être le sport.
Nous, on est l'inverse. C'est-à-dire que nous, on est l'inverse du football. Nous, on est le sport individuel le plus collectif. Voilà, et le foot, c'est l'inverse.
C'est le sport collectif le plus individuel. Mm-hmm. Mais c'est l'inverse. Mais ça a une énorme différence. C'est-à-dire que toi, dans ton équipe, quand t'étais coureur, si t'avais des mecs avec qui tu t'entendais pas trop, etc. quand tu étais tout seul sur ton vélo, tu avais quand même pour pédaler, ta performance individuelle, tu pouvais quand même aller faire quelque chose.
Et ouais, si t'avais des consignes d'équipe, c'est pas possible.
Si t'avais des consignes d'équipe, etc.,
dans mon rôle d'équipier, c'est mieux. C'était compliqué.
C'est compliqué, mais quand même, tu pouvais faire le job. Dans le foot, si tu as aucune, tu peux pas bien t'entendre avec 25 mecs, ça c'est sûr.
Sauf que Julien, tu sais très bien, tu sais très bien et mieux que moi que dans les moments super importants, dans les moments charnières, comme en train d'attaquer l'OM, si t'as pas les 10, si t'es pas les 10-15 qui te font de passer de 100 à 115 parce qu'à 100%, c'est ton job et tu dois l'être. Si tu passes pas à 115-120 parce que il y a quelque chose d'autre, c'est là que tu te craches. Si tu le fais, c'est là que tu gagnes. Et ce petit morceau-là, ils sont allés en chercher une partie à Rome, mais ça enlèvera pas la pression de ce soir et du match de la semaine prochaine et celui d'après parce qu'il y a plus le droit à l'erreur. Quand t'es le Marseille, t'as pas le droit à l'erreur. Donc, ce stage, il va faire du bien à certains. Oui, que Luis Garcia découvre Jonathan Roux après 8 mois d'activité, c'est triste, mais c'est un peu la réalité. Je pense que c'est pas le seul club où c'est comme ça. Tu le sens dans certaines équipes. Moi, pour aller au stade, parfois, tu vois bien que entre certains joueurs des équipes, les mecs se connaissent à peine. Ils ont pas de plaisir à être ensemble. Par contre, ils jouent ensemble. Donc, tout cela mis bout à bout. Mais de toute façon, comme on le dit, De Zerbi, il aura tout tenté. Il pourra pas avoir de regrets. Il a essayé ça.
Et c'est
il aura mis les
dit,
choses en place.
Il dit, j'essaye tout.
On pourra pas lui reprocher.
Et c'est ce qu'il a déclaré. Il dit, j'essaie. Quand à peu près, on a entendu des sujets qui tombaient sur le fait de sa décision d'aller faire cette mise au vert. Il disait, oui, enfin, je vais tout tenter. Et puis peut-être que je vais faire des erreurs, mais comme tout le monde, il y a un moment, on fait des erreurs.
Et il a même dit, j'en ai déjà fait des erreurs. Et c'est vrai que c'est son management très, très humain, très émotionnel, fait qu'il est parfois dans la calinothérapie. Thérapie et parfois
il excède
des deux côtés, il donne des coups, il répond mal aux joueurs, ça les vexe et puis là il tente autre chose.
Ça peut même lui faire du bien à lui et son staff d'être allé là-bas, de prendre un peu de recul par rapport à l'environnement marseillais, par rapport à la commanderie quand ils font les entraînements, où il y a tout le monde, où ça parle, etc. Là il est tout seul avec son staff, il voit ses gars à l'entraînement, ils mettent les séances en place. Même pour lui et son staff, je pense que
on fait peut-être redescendre un peu la température.
Gérer la problématique de l'avant et de l'après football. Et quand tu les as tous sous la main, quand tu es manager, calinothérapeute, ce que moi je faisais aussi avec l'équipe BNB Hotel, c'est-à-dire que j'avais besoin qu'ils soient plus sérieux, donc je faisais des stages pour les tenir. Par contre, au bout de 4 jours, je disais bon les gars, on a bien bossé, on va boire un coup. Et dans ces cas-là, quand tu es manager câlin, il faut savoir donner des fenêtres de sortie pour tes joueurs. C'est ce qu'il essaye de faire là, parce que il a essayé de le faire, mais à distance. Le joueur, quand il rentre chez lui, le coach qui t'a dit qu'il t'aimait bien, sois sérieux, il a oublié au bout d'un quart d'heure. On le sait, t'as un pote qui t'appelle, tu vas à droite à gauche, viens donc, on va faire un tour là. Et ce que t'a dit le coach le matin,
c'est terminé,
t'as oublié. Alors que là, ils sont ensemble, le coach est là, c'est lui qui gère un peu. Moi, je trouve très bien cette initiative. Après, est-ce que ça apportera plus de résultats, je l'espère, mais c'est pas ça qui va tout changer. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a fait un stage que ce soir on va gagner, et que si ce soir Marseille perd contre Brest, ce sera pas à cause du stage non plus.
En fait, on est tous d'accord, ça va pas changer la vie des gars, le fait qu'ils aient été faire cette mise au vert. Enfin, pour certains, ça peut changer leur carrière quand même. Hein,
et si, c'est ce qu'il a dit. Exactement.
S'ils ont décroché cette Ligue des Champions.
C'est comme ça qu'il essaye de les appaguer, les Marseillais, en disant ça peut changer votre carrière.
Exactement, t'imagines, t'es obligé de leur donner leur motivation individuelle.
20h45, c'est le match ce soir. Marseille-Brest, on remercie Karim d'avoir participé à notre débat supporter marseillais. Bonne fin de saison, évidemment, pour toi et pour ton club. Marseille-Brest, 20h45, à suivre en direct en intégralité sur RMC. Ce soir, ça va être très, très chaud, cette fin de saison. Novak Djokovic a-t-il lâché? C'est la punchline des GG, vous allez l'entendre. Vous allez voir, c'est assez rare pour le souligner. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h41 de retour dans les grandes gueules du sport, votre émission jusqu'à midi avec Jérôme Vino, Sarah Pitkowski, Julien Beneteau, Christophe Cessieu à partir de 10h. C'est donc l'événement ce matin sur RMC, l'Agence mondiale antidopage. Lama prend la parole, dossier spécial. Évidemment, Lama sera face au GG. On a beaucoup de questions à poser à Olivier Rabin, le directeur de la médecine, notamment l'affaire Sinner, la dernière affaire chaude, ou encore évidemment les soupçons autour des performances majuscules et magnifiques de Tadej Pogacar. Ça, c'est dans 20 minutes à partir de 10h. Soyez bien présents au rendez-vous. Alors c'est une nouvelle réalité pour Novak Djokovic, celle d'un joueur qui se fait sortir dès son premier match d'un tournoi. Le Serbe à la trappe dès son entrée en lice à Monte Carlo il y a quelques semaines, a connu le même sort hier lors du Masters 1000 de Madrid. Une défaite en 2-7, 6-3, 6-4 face à Matteo Arnaldi. Alors je pourrais vous donner les GG 50 statistiques pour vous montrer le côté extraordinaire de cette élimination. En voici une, c'est la première fois depuis 16 ans que Djoko perd 6-7 de suite. S'en est suivi une conférence de presse assez inédite hier soir. Pour la première fois, l'homme aux 24 grands chelems semble comprendre que c'est la fin, c'est la punchline des GG.
RMC, la punchline GG.
Kind of new reality for me, I have to say.
Je dois dire que c'est une nouvelle réalité pour moi. Vous savez, essayer de gagner un match ou deux sans vraiment penser à aller dans le tournoi. C'est un sentiment complètement différent de ce que j'ai connu pendant plus de 20 ans. Donc c'est un défi pour moi. À chaque fois que j'entre sur le terrain, je ressens la nervosité, le stress, tout ce que les autres joueurs ressentent, et l'excitation aussi. J'aime toujours la compétition, mais c'est devenu un peu plus difficile pour moi, pour être honnête. C'est, je suppose, le cycle de la vie, de la carrière. Cela devait arriver un jour ou l'autre.
Cela devait arriver. Novak Djokovic a-t-il lâché ? Oui ou non ? Christophe Cessieux.
Non.
Sarah Pitkowski.
Bah oui, moi je dis oui.
Julien Beneteau.
Non.
C'est non. Jérôme Pinault.
Moi, je dis que oui, tout lâche chez Djoko.
Ok, il y a deux oui, deux non. On va commencer avec Sarah. Pourquoi oui ?
Bah parce que je pense qu'il est en train de prendre conscience, et ça met toujours un petit peu de temps, que les ambitions qu'il s'était peut-être fixées après ce fameux titre de champion olympique, qui est, semble-t-il, le titre qui le marque le plus, il avait d'autres objectifs. Et d'ailleurs, depuis quelques années, il ne fonctionne qu'aux objectifs. Il le dit en septembre 2024, je vais choisir mes tournois. C'est-à-dire qu'il sait très bien qu'à 38 ans, il peut pas faire une saison complète. Donc, il lui reste deux records. C'est éventuellement un titre, mais il peut le faire deux en un, c'est-à-dire un 25e titre du Grand Chelem pour égaler Margaret Court. Et il est à 99 tournois remportés. Et je pense qu'il veut rentrer dans le cercle très fermé des joueurs qui ont gagné 100 titres.
Il peut gagner un challenger, je pense qu'il peut y arriver. Là.
Non, il n'a pas le droit d'aller jouer un challenger. Mais s'il gagne un Grand Chelem, il fera coup double. Il fera son centième.
La question, c'est de savoir si là, il en est vraiment encore capable.
Et moi, depuis que vous m'interrogez sur ces sujets-là, je vous le dis franchement, c'est le joueur que j'aime le plus. Je pense que il ne gagnera plus un tournoi aujourd'hui. Et alors, un tournoi du Grand Chelem, c'est signé. Un tournoi, ça te semble être de plus en plus compliqué.
Il était en demi à l'Open d'Australie. Hein.
Ouais, il a abandonné.
Ouais.
Ok. Puis il était en finale à Miami et il perd sur deux tie-breaks face à Menchik. Et tu sais que les tie-breaks, jusqu'à maintenant, s'il y a un mec qui gérait bien les tie-breaks, c'était Djokovic. Donc aujourd'hui, il y a une forme de fatalisme et il est en train de faire le chemin. C'est-à-dire que soit il joue pour se faire plaisir, c'est-à-dire qu'il va devoir. C'est pas le genre du mec.
Non, ben voilà.
Mais il est en train de faire le chemin de se dire, est-ce que quand je rentre sur le court, je vise déjà le dimanche en finale ou est-ce que je vise juste essayer de sortir vainqueur de ce match-là?
Il le dit dans son interview, hein, il dit qu'il va falloir qu'il se mette en tête d'arrêter de penser à la finale d'un tournoi, mais plutôt au premier match qui vient. Et c'est quand même un signe déjà.
Et c'est déjà un bouleversement dans sa carrière où souvent il pensait juste à la victoire, évidemment. C'est impossible. Non, il n'a pas lâché. Pourquoi, Julien?
Parce qu'aujourd'hui, ce qui l'intéresse, c'est uniquement les grands chelems. Il a gagné les Jeux Olympiques l'année dernière. Ce qui l'intéresse, c'est 25 grands chelems. Mmh. Un dernier, aller chercher certainement à Wimbledon. C'est là où il a le plus de chance pour moi. Et il pense qu'à ça. Il pense pas, quand il joue hier à Madrid, il pense pas à se dire, tiens, je vais peut-être essayer de faire demi-finale ou gagner Madrid. Il pense à essayer de passer un match, deux matchs, trois matchs, le plus de matchs possible. Pour préparer Roland Garros. Une fois que Roland Garros sera terminé, je sais même pas s'il va jouer sur gazon, parce que les autres années, il jouait jamais sur gazon avant Wimbledon. Il va que se préparer pour Wimbledon. Aujourd'hui, avec son âge et son palmarès, il y a que ça qui compte. Et le connaissant, mais jamais une seule seconde dans sa tête, s'il est encore là aujourd'hui, il se dit, il peut pas gagner une fois.
Lui se le dise.
Non, mais c'est pour ça que pour moi, il a pas lâché encore. Son corps lâche un peu plus. Ça, c'est vrai. Mais mentalement, il a jamais lâché. Il a quand même fait. Il a quand même battu Alcaraz. Alcaraz à l'Open d'Australie.
Exactement.
Alors après, il perd. Ok, il doit abandonner au bout d'une heure vingt, au bout d'un set. Il fait quand même finale à Miami. Ça veut dire que je suis d'accord. Mais ça veut dire quand même que il est capable d'être ultra performant sur un moment donné, sur un objectif.
Oui, sauf que les objectifs sont de plus en plus, la fenêtre de tir elle est de plus en plus restreinte. Ah, je pense que tu vois Julien dans la déclaration qu'il fait hier, ce qui me, moi j'ai trois choses, c'est-à-dire 38 ans, son âge, ouais. Nadal, Federer parce que c'est un mec qui est picousé à l'adversité directe et ces deux-là sont plus là et c'est le troisième monstre. Et d'autre part, c'est qu'un mec qui aujourd'hui, suite à son titre olympique. Et on connaît sa facilité de s'exprimer devant les médias et sa facilité aussi à lancer des bombes et à prendre la parole et à dire ce qu'il veut. Hier, en perdant à Madrid, tout Joko qu'il est, il a le droit, lui, de dire « Écoutez, moi, je me suis mis un grand chelem en tête, un dernier. Voilà mes chances de victoire là et là et là. Je viens sur ces tournois pour continuer à entretenir ma condition pour préparer tel objectif. » Lui, il a le droit de le faire. Ça n'a choqué personne. Mais là, il te dit, eh ben, il va falloir que je me remette en question parce que faut pas, voilà. Et c'est ça, moi, qui me fait dire que c'est à la fois et le corps et le mental et cette adversité face à des monstres comme lui, il l'a plus. Et ça aurait pu être quelque chose, qui aurait pu le tenir un peu plus
longtemps. Une motivation supplémentaire.
Voilà. Aujourd'hui, d'aller chercher un tournoi supplémentaire, il le sait, mais Dieu sait si c'est difficile d'aller chercher. Moi, j'ai fait un rapport à Cavendish qui était à une victoire de dépasser le monstre Merck sur les étapes du Tour. Ça a failli ne jamais arriver. Il l'a fait et parce qu'il y avait de l'adversité qui s'est remis. Là, je sens un mec qui est un peu, je sais pas, vous le connaissez mieux que moi, mais dans les déclats un peu paumé, un peu, c'est fini.
Moi, je suis pas d'accord avec toi. Moi, je le sens apaisé. On l'a vu il y a 15 jours quand il est battu.
Oui, mais pas
sur motivé. Quand il est battu à Monte-Carlo, tu sens qu'il a vraiment la haine. Et il s'est rendu compte que c'est pas en ayant la haine que ça allait lui faire gagner des matchs. Là, on le sent plus serein. Ok, je suis plus Djoko, je suis plus le même, je gagnerai plus.
Mais résigné presque, Christophe.
Mais
tu
non,
vois
c'est pas de la résignation. C'est une autre façon. Je pense que le mec est hyper fort mentalement. C'est le plus grand de tous au niveau de la tête, au niveau du mental. Et je pense qu'il essaye une autre manière. C'est-à-dire que, voilà, ok, je suis battu sur ce coup-là, mais il a quand même fait, même s'il perd au premier tour, il a pas du tout fait le même genre de match qu'il avait fait il y a 15 jours à Monte-Carlo. On sent qu'il en a quand même encore sur la pédale.
Justement, Chris, il en a mis hier, et ça l'a pas fait quand même.
Non.
Je pense qu'il a peut-être quand même pris un petit coup derrière la tête en se disant, bon, bah, même en jouant comme ça, ça passe pas non plus. Un tour, on parle de gagner un tournoi. Là, c'est premier tour.
Zverev,
ça ne lui est jamais arrivé. 6-7 de suite, ça ne lui était jamais arrivé. Et tout ça fait que, bah forcément, quand tu es un goat comme lui et que tu as tout gagné, ça finit par te lâcher, c'est obligé.
Moi, je pense qu'à Roland, quand les quarts de finale vont arriver, Zverev, il préférera jouer Mensik que Djokovic.
Il faut qu'il y aille en quart de finale.
L'odeur du sang de Djokovic sur un
en 5-7 pour aller sortir en grand chelem en 5-7. Il faut savoir jouer au tennis, les enfants.
Non, mais que tu.
Mais ça, on est d'accord, mais est-ce qu'on peut tenir 5-7 quand on fait à chaque fois qu'un pauvre petit tournoi
bien
et
sûr,
qu'on fait qu'un petit
tournoi
à
jouer 25
ans. Non, mais je pose la question, c'est vous qui savez, évidemment.
En revanche,
il y a quand même une épine. Il y a un mec qui s'appelle Yannick Sinner qui va revenir avec le couteau entre les dents, quand même.
Ouais,
il y a une autre déclat qu'il fait dans
le
couteau, c'est que.
Ah là là, ça y est, Christophe.
Il dit quand même, j'ai peut-être disputé mon dernier tournoi à Madrid. Je suis pas sûr de revenir.
Il le dit à la fin, oui.
Oui, ben.
Il dit à la fin de sa conférence de presse, quand même. Ça, c'est.
Quand tu commences à parler de la fin, c'est qu'il y a quelque chose qui t'a lâché.
Il n'avait pas encore prononcé de choses définitives sur.
C'est pour ça que je voulais qu'on en parle ce matin.
2026, à mon avis, maximum, c'est la.
Non, mais il nous a pas habitué à ça. Il nous a pas habitué à ce genre de déclat, tout de même.
Non, mais parce que ça fait son chemin. Parce que ça fait son chemin. Il y a un moment où, effectivement, il a face à lui des jeunes joueurs. Ils ont 14 ans d'écart avec Arnaldi. Arnaldi le dit, c'était mon idole.
Bah, 16 ans d'écart avec Alcaraz, t'imagines?
Ben oui. Donc, je comprends quand Jérôme dit trouver la source de motivation. Tu peux l'avoir face aux gens avec qui tu as déjà fait des grands matchs, des grandes épopées. Ces joueurs-là, ils sont en train de taper Djokovic. Et puis le prochain qui va jouer Djoko, il se dit, il y en a deux qui l'ont fait. Moi, je peux le faire aussi.
Ce qui est fou, c'est qu'aucun des trois n'a voulu vraiment lâcher. Jamais lâché au sommet de leur art.
Au sommet,
Federer, il s'est accroché, il a eu ses blessures, il a essayé de revenir.
Ouais, il en a gagné un après quand même.
Ouais, mais bon.
Nadal, oui, il regagne Roland.
Nadal est revenu triste.
Nadal. Non, mais Djokovic, aujourd'hui, je pense que dans sa tête, Sarah, t'as raison sur l'Open d'Australie, parce qu'il a gagné quoi, 9 ou 10 fois l'Open d'Australie.
Donc, 9 ou 10, ouais. Je pense qu'il se donne encore l'Open d'Australie.
Et, Et oui, mais
et oui, mais il en a sept. Oui, mais
je crois qu'il en a sept. Pour en profiter encore pendant un an.
Non, mais, oui, mais on se rend pas compte. Mais s'il gagne encore une fois Wim, il égalise Federer à Wimbledon. Alors qu'on pense que Federer est intouchable à Wimbledon. Ben non.
Vous parliez de Carlos Alcaraz. Je voudrais juste vous entendre pendant que je vous tiens, les copains du tennis. Parce qu'il y a un documentaire sur lui depuis mercredi sur Netflix. Et l'entraîneur Juan Carlos Ferrero du jeune espagnol, eh bien, il a fait cette déclaration qui a surpris, en tout cas, qui a beaucoup été relayée. Son approche du travail et des sacrifices a fait des différences et notre vraie différence à tous les deux tellement différente qu'elle me fait parfois douter et je ne sais pas si c'est comme ça qu'on devient le meilleur joueur de l'histoire. Il parle comme ça de son joueur et je vous propose d'écouter Bautista Agut, compatriote espagnol, sur Carlos Alcaraz. C'était en conférence de presse. Lui aussi, eh bien, il a un doute sur l'espagnol.
Le tennis au plus haut niveau demande beaucoup de sacrifices. Carlos ne gagnera pas de grand chelem en se couchant à 7h du matin. Pour l'instant, tout va bien, il est jeune et tout roule. Mais s'il veut atteindre le niveau des trois cracks du passé, il faudra qu'il joue 15 ans. C'est un joueur et une personne intelligente et petit à petit, il va se rendre compte des choses à mettre en place pour durer au plus haut niveau et finira par les appliquer.
Pour rester à ce niveau, il est sûr qu'il va implémenter.
Juan Carlos Ferrero, son coach, qui a des doutes. Bautista Agut, qui nous dit c'est pas en se couchant à 7h du mat qu'il va gagner des grands chelems. C'est quoi le hic là?
Pourquoi ça s'appelle sorti, un recadrage. Moi, ça s'appelle un bon recadrage en bonne et due forme d'un mec qui fait pas le métier, qui doit se remettre en question sur ce sujet-là.
Qui font pas le métier. Ouais. Qui a 21 ans.
Il a 22 ans. Il y a des grands chelems, le mec.
Non, mais des grands. J'en connais beaucoup, des grands talents qui après des grandes victoires. Se disent voilà, mais s'il veut le faire, lui le coach, il lui dit si tu me parles de Nadal par exemple, commence pas maintenant parce que ça fera pas la longueur comme Nadal. C'est ça qu'il lui dit. Il lui dit pas tu vas pas gagner de tournoi, il lui dit si tu veux que ça dure, ton corps il va pas te lâcher à 21. Par contre à 30 à gagner des tournois, à faire le con après et les enchaîner, ça durera pas longtemps. C'est ça qu'il est en train de lui dire. C'est pas tu vas pas gagner de tournoi, c'est si tu veux que ta carrière et si tu veux monter sur le toit comme sont montés sur le toit les Nadal, les Federer, les Djoko.
Oui, mais enfin à 30 ans, il aura peut-être moins envie de sortir qu'à 21 ans.
C'est maintenant
qu'il prépare son corps de 30 ans.
Mais oui, exactement.
On est pris par le
mais
vous voulez entendre les copains du tennis là.
Non, mais rapidement. Après, alors déjà, moi, je sais pas si je. S'ils sortent ça, c'est peut-être qu'ils ont 2-3 infos comme quoi il fait un peu la fête, etc. Mais je pense pas qu'il puisse faire beaucoup la fête. À 22 ans, il a déjà 4 grands chelems. Ça dépend s'il veut devenir une. Nadal, Federer, Djokovic, faut pas les prendre comme exemple, c'est stratosphérique. S'il gagne une fois l'Open d'Australie, il devient une légende, hein, parce qu'il aura gagné les 4 grands chelems. Il y en a très peu qui ont gagné les 4 déjà dans une carrière. Et puis aujourd'hui, tout a changé. J'ai regardé hier, ça fait 4 ans qu'il joue Nadal, Alcaraz. Ça fait 4 ans qu'il joue. Il a 40 millions de dollars de prize money. 40 millions de dollars de prize money. J'imagine même pas ce qu'il a en contrat. Donc peut-être qu'à 22 ans aussi, à un moment donné, il y a certaines priorités qui sont différentes.
Et je pense qu'effectivement, le monde dans lequel on vit, le sens du sacrifice n'est pas tout à fait le même du temps d'un Djokovic, Federer ou Nadal quand ils ont commencé.
Non, mais surtout que le mec n'a pas eu d'adolescence comme tous les grands champions. Mais au bout d'un moment, à 21 ans, t'as aussi envie un peu de respirer, quoi. Pas penser qu'à la petite balle jaune.
C'est 40 millions de dollars.
C'est très intéressant de vous entendre. On parlera et on reparlera de Carlos Alcaraz qui n'est pas présent à Madrid. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour l'événement sur RMC, une émission et un dossier spécial dopage avec l'Agence mondiale antidopage qui sera avec nous dans cette émission. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi,
les grandes gueules du sport.